Au fil des pages. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Damien Le Guay.
Nous retrouvons Émile Poulain. Émile Poulain, merci beaucoup de venir vous prêter au jeu de nos questions et de répondre avec toute l'assurance et toute l'expertise qui est la vôtre. Donc, deuxième émission importante sur cette question de la laïcité. Tout le monde sait que chacun a son idée de laïcité. Chacun sait que la laïcité est aussi nombreuse que sont nombreux les points de vue qui s'en emparent ou qui évoque la laïcité, et donc il est toujours ô combien important de pouvoir se référer à votre travail, à ce que vous en dites. Alors, pour ceux qui n'auraient pas suivi notre première émission qui vous est consacrée, rappelons donc que maintenant vous avez déjà un âge certain, que ça fait effectivement 50 ans que vous travaillez sur tous ces sujets-là. Vous êtes effectivement un peu le pape de la sociologie religieuse et vous avez beaucoup travaillé à la fois sur les questions de la crise moderniste, qui a été le début de votre travail, puis vous avez abordé aussi, en étant directeur donc aux études en sciences sociales, et vous avez regardé tous les aspects des relations entre l'Église et l'État, et nous allons donc centrer notre propos d'aujourd'hui sur la laïcité, qui est effectivement un élément discuté, toujours remis sur le tapis, et qui est particulièrement connu par vous-même. Nous en étions restés dans notre première partie sur effectivement cette crise moderniste ô combien importante, et vous avez évoqué un nom que vous considérez comme un nom majeur. Je rappelle à nos auditeurs que nous avons consacré une émission au premier tome de la biographie du père Chantraine sur le père de Lubac, et vous disiez que le père de Lubac avait joué dans cette suite de crise moderniste un rôle très important. Alors, quel est selon vous ce rôle très important du père de Lubac comme grand théologien, ou le plus grand théologien, disiez-vous, du XXe siècle?
Je crois que le père de Lubac n'a peut-être pas été un théologien systématique, si vous voulez, comme c'était la grande mode de son temps. Ça n'est pas l'inventeur d'un système, si vous voulez, mais en revanche, c'est un théologien qui connaît l'histoire et qui a beaucoup fréquenté l'histoire. Alors, il a fréquenté l'histoire à la fois avec les pères de l'Église, les pères latins et les pères grecs, la patristique. Il est à l'origine de la collection Sources chrétiennes et c'est un homme qui a beaucoup cultivé les auteurs du Moyen-Âge. Hein, et par conséquent, devant l'exégèse pratiquée par Alfred Loisy ou par les modernistes ou même par, disons, l'ensemble de ses collègues ou de ses confrères, le père de Lubac est quelqu'un qui a rappelé que si l'exégèse historique avait sa légitimité, si la méthode critique avait sa légitimité, ce n'était pas la seule manière de lire la Bible, de lire les Écritures chrétiennes. Et ça, je crois que ça a été... Alors, il a rappelé à partir des quatre sens de l'Écriture selon les auteurs du Moyen-Âge, si vous voulez. Bon.
Même de la patristique, enfin, dans Origène en particulier.
Et dans la patristique, ce n'était pas les quatre sens, mais c'était le sens spirituel de la Bible. Donc, si la Bible a un sens historique, elle a aussi un sens spirituel. Et le sens historique ne tue pas le sens spirituel. Hein. On est donc là devant des lectures multiples. Et par ailleurs... moi-même, dans ma génération, j'ai assisté à cette redécouverte du côté proprement universitaire. Parce que la première découverte, ça a été quand tous ces exégètes catholiques ou protestants qui s'étaient mis à la lecture historique de la Bible, quand ils ont découvert Roland Barthes et sa lecture structurale de la Bible. Ça a été une révolution. Et donc, on a commencé à dire, mais oui, tiens, c'est vrai, il y a une autre lecture possible, lecture structurale de la Bible, qui ne doit rien à la méthode historique, qui ne doit, par conséquent, qui fait le saut sur la crise moderniste, en quelque sorte. Et puis après, on a découvert qu'il y avait une lecture psychanalytique, on a même découvert qu'il y avait une lecture matérialiste, on est parti d'une lecture dans tous les sens, si vous voulez. C'est-à-dire que finalement, la Bible est l'objet d'une lecture infinie. C'est à l'orthodoxie à se retrouver là, c'est au magistère catholique à se retrouver. Mais la Bible est l'objet d'une lecture infinie. Et en plus, vous avez eu la lecture. C'est le moment où les communautés chrétiennes de base se sont emparées de la Bible et se sont mises à la lire. Donc, devant des lectures individuelles, personnelles, voilà ce que la Bible me dit.
Je voudrais qu'on en vienne à un chapitre très important de vos études et que vous étudiez bien évidemment dans ce livre d'entretien, qui est celui effectivement de la laïcité. Alors, je suis un peu désolé de revenir sur ce sujet-là parce que je sais que vous... Mais il y a tellement de bêtises. Mais tellement de bêtises qui sont dites à ce sujet-là, tant d'approximations que effectivement, ce serait peut-être bien d'y voir un peu plus clair, d'y voir un peu plus clair avec vous. Alors, la première question qu'on peut se poser, puis après on va essayer d'indiquer quelques bêtises que vous soulevez dans vos travaux, mais la première question qui se pose, c'est peut-on dire, comme le disait René Raymond en particulier, que d'une certaine façon, la laïcité, qui est un régime de séparation, est une invention chrétienne? Est-ce que vous diriez ça?
Écoutez, oui, je le dirais, en pensant que ça ne répond pas à la question.
Ça ne répond pas à la question, mais pour le poser autrement, si vous voulez, est-ce que... cette question de la laïcité, enfin pour le
si vous voulez, le problème est très clair. Ce qui meurt est ce qui naît. Et tous les biologistes vous diront qu'il faut bien que ça naisse de quelque chose. On ne connaît pas d'enfant sans parents. On ne connaît pas d'enfant sans parents. Hein. Et comment la laïcité aurait-il pu naître? La laïcité est née en réaction dans un milieu chrétien. Mais elle est quand même née dans un milieu chrétien. Et je dirais, c'est la même question qu'on peut poser pour les droits de l'homme. L'Église a condamné les droits de l'homme. Mais les droits de l'homme sont nés dans une culture chrétienne, catholique. On peut tout prendre. Ou alors, si la laïcité et les droits de l'homme ne sont pas nés dans des pays de culture chrétienne, c'est qu'ils ont été importés. Donc ça nous vient de Chine, ou ça nous vient d'Afrique, ou ça nous vient des Indiens d'Amérique. Oui, non, vous voyez tout de suite.
Deux choses. La première, c'est soit on considère effectivement que le christianisme n'est juste que le terreau de réactions fortes qui se sont opposées au christianisme, soit on considère que, même si ce n'est pas forcément apparu comme tel à ceux qui l'ont vécu, que les droits de l'homme dont vous parliez, que la laïcité, sont dans le droit fil du dit terreau, donc du christianisme. Alors vous pensez quoi?
Moi, je pense que les Lumières sont le signe d'une bifurcation. Oui. C'est-à-dire que l'un et l'autre sortent effectivement d'un terreau chrétien. Et que s'ils se sont opposés... C'est comme deux jumeaux, si je peux dire, vous voyez, hein, issus du même père et de la même mère, enfin issus de la même famille, hein, deux frères ennemis, si vous voulez. Et par conséquent, on retombe sur ce problème du conflit que j'ai soulevé. S'il y a un conflit entre les droits de l'homme selon l'Église catholique et les droits de l'homme selon les Lumières, c'est là qu'il faut regarder, analyser le conflit. Alors j'en prendrai un exemple, si vous voulez. Le conflit s'est noué en particulier autour de la liberté de conscience. Et l'Église catholique a condamné la liberté de conscience. Alors, pour quelle raison? Parce que, pour les Lumières, la liberté de conscience équivalait au libre examen. Et par conséquent, c'était la mise en cause de la notion même de vérité. Celui qui a trouvé l'issue, ça a été le pape Pie XI. Quant à la liberté de conscience, libertas conscientiae, qui ne se dit pas en latin, il a opposé libertas conscientiarum, c'est-à-dire la liberté des consciences. Autrement dit, je reconnais ta liberté de conscience de manière absolue, ce qui ne m'oblige pas à reconnaître l'idée que tu t'en fais ni l'usage que tu en fais, et à charge pour toi de reconnaître la liberté de ma conscience, sans t'obliger à reconnaître l'idée que je m'en fais et l'usage que j'en fais.
Oui, donc vous dites
est-ce que c'est clair?
Oui, vous dites qu'il y a à la fois un élément de terreau, parce que peut-être qu'on peut dire aussi que la laïcité n'est pas d'origine musulmane ni d'origine juive, et que ce qui expliquerait pourquoi est-ce qu'elle ne se pratique sans doute pas dans des traditions musulmanes et ou juives, d'une part. Et deuxièmement, qu'il y a des effets de construction historique qui fait qu'à un moment donné, même s'il y a eu des conflits, il y a eu des solutions de conciliation suite à des crises telles que vous les analysez.
Ce que je regrette dans la position de René Raymond, c'est qu'il fait l'économie du conflit pour passer directement à une réconciliation qui ressemble à une récupération. Alors qu'il ne faut pas faire l'économie du conflit précis. D'abord parce qu'elle continue toujours. Le conflit, tout n'est pas entièrement résolu. Mais enfin, c'est vrai qu'aujourd'hui, l'Église se présente comme championne des droits de l'homme. Alors là aussi, il y a encore un autre conflit, c'est-à-dire que les droits de l'homme, c'est intraduisible en latin, mais c'est intraduisible en anglais. La liberté de conscience est intraduisible en latin, je vous dis, puisque libertas conscientiae, ça ne veut rien dire, ça veut dire liberté de ma conscience. Ça ne veut pas dire liberté de conscience. Et de même que les droits de l'homme, en anglais, vous dites human rights, les droits humains. Ce qui est plus juste dans la mesure où l'homme, c'est l'homme et la femme, si vous voulez. Mais en même temps, les droits humains, parce que les droits de l'homme, on est dans une abstraction. Vous savez, Georges Goyot, qui était un grand écrivain catholique, disait « l'homme n'existe pas, je ne connais que des hommes ». Alors on est dans des querelles sémantiques, des querelles lexicales, si vous voulez, mais je crois qu'elles sont fondamentales. Les problèmes de langage sont ici fondamentaux. Si on faisait beaucoup plus attention au langage, à la manière de s'exprimer, ce que je fais en ce qui me concerne, on éviterait bien des faux débats interminables.
Qui pourtant agitent beaucoup le champ médiatique et effectivement cette question-là. Alors on va en venir à un autre débat qui agite beaucoup les consciences et débat interminable, comme vous dites, qui est effectivement celui de la loi de 1905, qui est invoquée, qui est vénérée, qui est sacralisée, qui est devenue un peu les tables de la loi de la République. Enfin, et on les brandit à chaque fois que, d'une façon ou d'une autre, quelqu'un pourrait s'y opposer.
Vous savez, quand vous dites les tables de la loi, ça ressemble un petit peu au décalogue des tables de la loi tel qu'il est représenté dans l'iconographie. C'est-à-dire qu'on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, les 10 commandements. Mais on a des chiffres. De quoi que ça cause, personne ne le dit et ne le sait.
Oui, c'est pour ça justement que dans vos différents livres, vous vous en prenez à cette vulgate de la loi de 1905, enfin tous ceux qui n'ont pas, comme vous, été lire attentivement et scrupuleusement, non pas seulement la loi de 1905, mais la loi et les 6 décrets d'application, qui font, dites-vous, 800 pages au Conseil d'État, les 5 lois rectificatives entre 1906 et 1909.
Oui, vous m'avez bien lu.
Et je vous ai bien lu, absolument.
Je constate.
Et effectivement, vous avez même été jusqu'à regarder et en déplorant que ceux qui parlent de 1905 n'y aient pas été de façon plus exhaustive. Dans les 72 000 inventaires qui ont été faits en 1906, les 3000 pages du journal officiel qui effectivement parlent de cela. Donc je voudrais lister avec vous 2-3 bêtises qui sont souvent dites et que vous reprenez à chaque fois, mais pour que ça soit clair pour nos auditeurs, parce que il me semble que vous qui êtes professeur et votre livre est extrêmement facile à lire, donc le souci de pédagogie est très fort chez vous, donc de refaire un peu de pédagogie. Donc je vois 3 grosses bêtises que vous reprenez à chaque fois. Première bêtise, la loi de 1905, c'est la loi de séparation du temporel et du spirituel. Et vous dites que la loi de 1905 ne sépare pas le temporel du spirituel, mais des temporels. Est-ce que vous pouvez expliciter ce propos ? Parce que ça paraît tellement évident que ça sépare le temporel du spirituel.
À ce jour, nous n'avons aucune étude historique du mot séparation. Nous ne savons pas depuis quand il est employé, par qui il a été employé, dans quel contexte, à quel sujet, à quel propos. Ce que nous savons simplement, c'est que l'origine supposée du mot séparation vient de Montesquieu, qui était pour la séparation des pouvoirs. Or, Montesquieu voulait séparer le législatif, l'exécutif et le judiciaire, les 3 pouvoirs. Mais Montesquieu ignorait le pouvoir spirituel. Et donc, on a continué, indépendamment de Montesquieu, à parler du pouvoir temporel, celui de l'État, et du pouvoir spirituel, celui de l'Église. Et donc le rapport entre les 2 pouvoirs. Et le problème de leur séparation s'est posé dans le prolongement de la critique de Montesquieu, mais avec des conséquences inverses. C'est-à-dire que on a estimé que séparation des 2 pouvoirs, il n'y aurait plus de relation entre l'Église et l'État. Or, quand Montesquieu envisageait la séparation des pouvoirs, le législatif et l'exécutif, ce n'était pas pour qu'ils ne se parlent pas. C'est impensable. C'était au contraire pour qu'ils puissent se parler en étant chacun, sachant bien chacun ce qu'il était. S'équilibrant l'un l'autre, oui. Mm-hmm. Bon. Dans la loi de 1905, il n'est jamais question de l'Église. Il est question des biens, de l'attribution des biens, et il est question des droits financiers des personnes. Parce que les ministres du culte étaient rémunérés par l'État, à partir de 1906, ils ne le sont plus. Et donc, les anciens ministres rémunérés ont acquis des droits sur l'État, des droits à pension, ou à défaut de pension, s'il n'y a pas assez d'ancienneté, une allocation qui les aide à vivre. Bon, on est là dans le temporel ecclésiastique, on n'est pas là dans le pouvoir spirituel. Hein. Et attribution des biens, c'est le grand problème des édifices du culte. Que va-t-on faire des églises qui étaient propriété publique depuis 1789, nationalisées en 1789, confirmées par le concordat en 1802, si vous voulez? Or, les parlementaires disent ce qui appartient à l'État, aux départements et aux communes restera propriété de l'État, des départements et des communes. Oui. Donc on est là dans une histoire de sous, une histoire de biens, de pierres et de sous, je dirais.
Hein, oui, sauf que pour reprendre un peu de hauteur avec cette loi de 1905, c'est qu'en même temps qu'il y a une loi qui, effectivement, est assez technique, comme oui, vous dites, il y a aussi un état d'esprit, il y a aussi une volonté, qui est une vraie volonté de séparation, d'acter enfin, ce divorce entre le social et le religieux. Enfin, certains voulaient éteindre ces lumières dans le ciel.
Bah, c'était essentiellement supprimer le budget des cultes.
Voilà, ça c'est l'aspect technique. Mais en même temps, il y avait tout un débat qui existait quand même et qui visait à gérer...
Alors, on tombe dans l'histoire du débat parlementaire autour de la loi. Et ce qu'on s'aperçoit, c'est que les catholiques étaient divisés. Certains étaient favorables à la séparation, certains y étaient hostiles, si vous voulez, majoritairement hostiles, en particulier les théologiens, pour des raisons théologiques. Bon. Et d'autre part, la gauche laïque était elle-même très divisée. Et ce qu'on peut dire, c'est que la gauche radicale a représenté au maximum autour de 80 parlementaires. Et donc, ce qui a prévalu, sous l'influence d'Aristide Briand et de Jean Jaurès, ça a été une loi de transaction et une loi d'interprétation libérale, et non pas une séparation intégrale ou radicale.
Telle qu'elle était quand même...
voulue par une minorité radicale.
Et telle qu'elle était voulue, si j'ai bien compris aussi, par le premier rédacteur de cette loi, à savoir Combes, qui tombe juste avant que...
Émile Combes participait précisément à cette majorité radicale extrême.
Si et qui est tombé sur la question des fiches, mais pas sur cette question-là. Alors, deuxième bêtise, parce qu'il y en a trois, deuxième bêtise, on considère effectivement, et on l'a rappelé au début, que cette loi, vous m'avez dit effectivement que je prenais une image biblique, mais enfin c'est un peu le cas, que cette loi effectivement est les tables de la loi, donc elle est intouchable, qu'elle est intangible. Et j'ai rappelé, et vous rappelez à chaque fois ces évidences-là, que cette loi de 1905 n'existe pas d'une certaine façon sans toutes les modifications et tous les décrets d'application qui l'ont suivie. Alors, est-ce qu'on peut voir, et comment est-ce que vous le voyez, la différence entre la loi stricto sensu de 1905 et puis toutes les lois modificatives qui ont aménagé cette loi de 1905? Est-ce que tout cela rend la loi de 1905 plus libérale, plus souple? Ou est-ce que ce ne sont que des modalités d'application d'un esprit de la loi de 1905 qui reste dans le texte de la loi de 1905?
Écoutez, tout dépend de ce qu'on appelle l'esprit de la loi de 1905. Parce que l'esprit de la loi de 1905, dans la pensée des polémistes, si vous voulez, c'est essentiellement la loi de 1905 selon la minorité radicale. Or, précisément, c'est la loi telle qu'elle a été écartée. Et ceux qui l'ont voulu, ceux qui ont voulu qu'elle soit libérale et pacifiante, c'était des hommes comme Jaurès et Briand. En particulier parce que Jaurès voyait très bien que la montée de la colère sociale, qui va se traduire en 1907 par les grandes grèves nationales et les grèves du Midi, Jaurès, qui était réaliste, ne voulait pas se mettre sur le dos une guerre de religion, alors qu'il y avait cette guerre sociale, ces luttes sociales qui pour lui étaient prioritaires.
Alors même, dit Peggy par exemple, qu'il a porté au pouvoir Combes.
Alors il a porté Combes au pouvoir, mais bon, il a soutenu Briand.
Absolument.
Il a soutenu Briand et il l'a soutenu sans défaillance. Enfin, je dirais même que c'est même Jaurès qui est à l'origine, qui a enterré le gallicanisme, hein, avec l'article 4 reconnaissant l'autorité de la hiérarchie catholique dans l'exercice du culte.
Donc vous dites, il y a cette loi et puis effectivement, alors, tout ce qui vient après.
Briand d'ailleurs a emboîté le pas au Conseil d'État demandant l'interprétation la plus libérale possible de la loi. Alors, les mesures qui ont été prises et qui n'ont pas attendu, puisque c'est dès le mois d'avril 1906 qu'il y a eu une première modification libérale. Bon, donc la loi a évolué, si vous voulez, pour deux raisons. Premièrement, une volonté d'interprétation libérale et deuxièmement, par réalisme politique. Alors, en particulier, il était prévu que l'exercice du culte devait passer par les associations cultuelles. Or, le pape Pie X a interdit aux catholiques de former des associations cultuelles, ce qui veut dire que, normalement, le 12 décembre, Briand aurait dû faire fermer 40 000 églises en France. Ce qu'il mettait dans une contradiction impossible, si vous voulez, étant donné que la loi de 1905 garantit le libre exercice public du culte.
Donc les deux sont absolument indissociables, à la fois la loi et puis toutes les lois modificatives et décrets.
Le désir libéral, oui, tout ça.
Et le désir libéral est plus fort, c'est ça, dans les éléments d'application, plutôt que dans la loi elle-même.
Oui.
Et troisième bêtise que vous soulignez aussi, on dit qu'effectivement, à partir de la loi de 1905, il n'y a pas de financement des cultes.
Oui.
Alors que vous soulignez à plusieurs reprises que, effectivement, cette loi est.
Non, attention.
Je vous en prie.
Financement de la religion, enfin, ou des. C'est-à-dire que la loi de 1905 interdit toute subvention au culte. La République ne subventionne aucun culte. Bon. Alors là-dessus, il y a aussi une bifurcation. C'est-à-dire que la religion, et en particulier le catholicisme, ne se réduit pas à un culte. Donc, rien n'interdit l'État, les départements ou les communes de subventionner des activités religieuses non cultuelles. Par exemple, l'éducation, les mouvements de jeunesse confessionnels peuvent être subventionnés parce que, comment dire, ce ne sont pas des mouvements qui ont pour objet l'exercice du culte.
Vous rappelez aussi l'exonération de la taxe d'habitation et la taxe foncière.
Alors, d'autre part, très rapidement, la loi 1905 mettait à la charge de l'affectataire toutes les dépenses qui incombent normalement aux propriétaires. Et finalement, très rapidement, on s'est aperçu que c'était utopique, que les fidèles n'avaient pas les moyens d'assurer l'entretien et la restauration, par exemple, des grandes cathédrales, etc. Donc, à partir de ce moment-là, on a bien maintenu le principe, la République ne subventionne aucun culte, mais ne sont pas considérés comme subventions telles et telles. Bon.
Voilà, non, parce que vous rappelez, donc, l'exonération de la taxe d'habitation et les taxes foncières pour les lieux de culte.
Oui.
Le don et les legs exonérés d'impôts.
Oui.
L'association cultuelle fiscalement assimilée à des associations.
Oui, oui, oui.
Donc tout ça, c'est des manières surtout, déguisées.
Et puis alors, et puis surtout, le fait que les collectivités territoriales sont autorisées à participer aux travaux d'entretien et de restauration des édifices du culte, ce qui est un énorme morceau.
Voilà, et qui n'était pas, alors qui est dans la loi, qui n'est pas dans la loi de 1905.
C'était interdit par la loi de 1905.
Voilà,
et après, on dira, ne sont pas considérées comme subventions les sommes allouées pour l'entretien et la restauration des édifices du culte. Donc, tout le problème est de savoir comment définir une subvention.
Nous allons faire une petite pause et reprendre notre entretien.
Brigitte Engerer est une pianiste adorée en France, vénérée à l'étranger. Son élan naturel la porte vers les pages romantiques du clavier, mais elle se sent bien aussi devant une partition de musique contemporaine. La pianiste nous a reçus chez elle, à Paris, pour un entretien personnel sur ses années en Russie, sur sa peur des studios d'enregistrement et son amour des œuvres vocales. Cet entretien est en libre écoute et téléchargement sur canalacademy.com.
Nous reprenons donc notre entretien avec Émile Poula pour son livre « France chrétienne, France laïque ». Et nous sommes restés sur ce problème d'interprétation de la loi de 1905 et puis cette idée que la loi de 1905 n'est concevable, contrairement à ce que beaucoup disent, qu'avec tous les éléments, décrets d'application, lois modificatives, etc., ultérieurs. Alors, je voudrais revenir sur un point qui est quand même aussi, toujours quand on parle de 1905, important, qui est celui de la violence et des traumatismes qui sont nés à partir de ce moment et à partir de cette séparation, hein, parce que séparation il y a eu, qui a trouvé son point d'achèvement, ou du moins son summum, enfin, dans cette loi de 1905. Je pense en particulier effectivement à ces 30 000 religieux et religieuses qui ont été obligés de partir.
Ah bah, la loi de 1905 n'est que la dernière d'une série de mesures de loi laïque qui se sont étalées sur 25 ans d'âge.
Est-ce que vous considérez, vous, que dans la sociologie religieuse ou dans l'idée que le grand public ou le public éclairé a de ce moment-là, tous ces éléments de violence et ou de traumatisme et ou de déchirure apparaissent clairement. Et est-ce que vous pouvez rappeler effectivement tous ces éléments-là ? Enfin, je parlais effectivement des religieux qui ont dû partir, des religieux qui ont dû quitter l'habit pour rester auprès des malades et ou des écoliers, etc. Enfin, voilà. Est-ce qu'on a pleinement non pas une idée, parce que vous l'avez, mais une vision objective de toute cette violence-là.
Écoutez, oui, l'historiographie des deux côtés a beaucoup souligné la violence des oppositions qu'il y a eu à cette époque-là, à la fois sur l'anticléricalisme et le cléricalisme, si vous voulez. Bon, je crois qu'au contraire, c'est l'aspect qui a dominé. Mais le véritable problème est d'expliquer comment la loi de 1905 est suivie par la décrue. De 1880 à 1905, on a l'impression d'une montée dont on ne sait pas où ça va s'arrêter, si vous voulez. Et après la loi de séparation dans l'esprit de Briand et Jaurès, si vous voulez, à ce moment-là, on commence à assister à une décrue. Et quand on arrive en 1914, il y a le fameux télégramme du ministre de l'Intérieur, Malvy, demandant que soient suspendues les mesures contre les congrégations religieuses. Et puis alors après, il va y avoir la fraternité des tranchées, les droits des religieux anciens combattants, bon, et puis finalement la reprise des relations avec le Saint-Siège. Autrement dit, 1905 semble ce qui a permis de tourner la page de l'anticléricalisme. Et c'est peut-être l'aspect qui est, alors là, sur lequel on a beaucoup plus de mal à écrire objectivement. En particulier parce que les catholiques ont gardé le souvenir non seulement de la violence, mais également de ce qu'ils ont appelé la spoliation. Alors il est vrai que les religieux, les congrégations dissoutes, on peut parler de spoliation si vous voulez. Bon, mais s'agissant de la loi de 1905, le souci du législateur a été que tout ça se passe au centime près. Alors le refus du pape Pie X de constituer des associations cultuelles fait que toute une partie des églises et des lieux de culte sont devenus propriété publique, si vous voulez. Bon, mais ça portait quand même sur 2300 églises, alors que 38 000 étaient déjà propriété publique, si vous voulez.
Au jour d'aujourd'hui, parce que comme on s'envoie un peu à la figure, oui. Cette idée de laïcité, je ne suis pas assez laïque, vous êtes trop laïque,
oui, mais c'est
etc.
La laïcité, les droits de l'homme, la voilà. Liberté de conscience, on est toujours dans ce même genre de fausse querelle.
Alors comment est-ce que vous définiriez pour vous aujourd'hui la laïcité? Est-ce que c'est une coupure entre religion et État? Est-ce que c'est une exclusion de la sphère religieuse dans la sphère publique? Comment est-ce que vous définiriez l'esprit de la laïcité tel qu'effectivement il existe toujours aujourd'hui et qui fait l'objet, comme vous le rappelez souvent, de polémiques vaines et parfois violentes?
Alors écoutez, je pense qu'il faut bien voir d'abord qu'il y a, quand on dit la laïcité, en réalité il y a deux laïcités. J'emploierai une formule qui m'est chère et je pense qu'elle est claire. Il y a la laïcité qui habite chacun d'entre nous et la laïcité qui nous gouverne tous. La laïcité qui habite chacun d'entre nous, c'est l'idée que chacun de nous peut s'en faire en toute liberté de penser. Moi, j'ai mon idée de la laïcité. Toi, tu as ton idée de la laïcité. C'est la même, c'est pas la même. C'est le régime de la liberté de penser publique. Et puis, il y a la laïcité qui nous gouverne tous, quelle que soit l'idée que nous nous fassions d'elle. Et ça, c'est celle qui est dans les textes de loi. C'est celle qui est en vigueur, pratiquée par les administrations, pratiquée par les tribunaux. Alors, si vous me demandez, et vous, comment la définiriez-vous? Je dirais que la laïcité s'est imposée en France. Vous savez, d'abord, il faut bien voir que le mot laïcité est un vocabulaire très récent. C'est comme modernité. Modernité est un mot qui a fait fureur à partir des années 1960. Auparavant, on ne parlait pas de modernité. Et laïcité est un mot qui a commencé à envahir les médias en 1980. La loi de 1905 n'emploie pas une seule fois le mot laïcité. Ni laïcité, ni église, ni séparation. En revanche, donc laïcité est un mot qui est apparu tardivement. Donc, dans les débats parlementaires, le mot laïcité apparaît deux fois, sur des centaines de pages de journal officiel. Les lois laïques ont été votées sans qu'on ait besoin du mot laïcité. Si bien qu'aujourd'hui, je me demande si ce n'est pas un mot superflu fait pour favoriser les faux débats plus que les vraies analyses, si vous voulez. Alors, bon, prenons le mot laïcité. La France était un pays de catholicité. Bon, aujourd'hui, nous sommes dans une société de laïcité. Si l'on veut définir le mot laïcité, c'est par opposition à catholicité pour un pays comme la France. La catholicité, tout le monde devait être, il fallait être catholique pour occuper un emploi public. Même ceux qui étaient incroyants avaient été baptisés, donc étaient catholiques, et on leur demandait de respecter l'extérieur de la religion. Si vous étiez protestant, si vous étiez juif, vous n'aviez pas tous les droits. Et dans une société divisée de convictions, la laïcité est devenue ce qui a permis la liberté publique de conscience pour tous. Et donc, personnellement, moi, je définis la laïcité comme le régime qui légitime la liberté publique de conscience et d'expression pour tous. Cette liberté publique était déjà, au XVIIIe siècle, s'est imposée au XVIIIe, mais en toute illégalité. En toute illégalité, alors que l'article 10 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, en 1789, nul ne peut être inquiété pour ses opinions, même religieuses. Même religieuses, c'est-à-dire même hétérodoxes, puisqu'à l'époque, les opinions religieuses devaient être catholiques.
Mais d'une certaine façon, est-ce qu'on ne peut pas dire que la laïcité, c'est à la fois ce qui nous rassemble, mais chacun ayant sa propre, propre définition de la laïcité et l'interprétation libéral de tolérance dont vous parlez comme régime de laïcité, peut-être entendu par d'autres, sous ce mot de laïcité, comme effectivement l'exclusion du religieux de tout le champ public.
Alors c'est pareil, qu'est-ce que le champ public, si vous voulez? Non, mais parce que c'est la grande, si vous voulez, c'est la grande équivoque autour du mot public. Moi, pardonnez-moi de le dire, mais je dis, il ne faut pas confondre un banc public et le trésor public. Hein, le banc public, cher à Brassens, c'était bon. Mais le trésor public, je vous défie d'y entrer. Terrain militaire, domaine public, interdit au public.
Alors, je prends par exemple ce que dit René Raymond, où il dit qu'effectivement, les catholiques ont été chassés de la vie politique entre 1879 et 1939. Donc, il y a eu effectivement quelque chose de
l'ordre.
Et 1939.
Ce qui n'est pas vrai. Non, mais d'abord parce qu'il y a eu plusieurs ministres catholiques qui ont participé à des gouvernements au cours de cette période, si vous voulez.
Oui, enfin, que de façon générale, si vous voulez, il ne fallait pas être catholique pour faire... Hein?
Ah si, ils ont été ministres parce qu'ils étaient catholiques.
Oui. Mais que
Denis Cochin a été ministre parce qu'il était catholique. Chantier-de-Ribes a été ministre parce qu'il était catholique.
Est-ce que ce sentiment-là d'exclusion fait partie de la laïcité, ou c'est une déviance, c'est le laïcisme dont parle...
C'est la réaction datée, si vous voulez, des milieux catholiques à la situation d'infériorité qui leur était faite. Mais disons, juridiquement, il n'y avait rien s'opposer. C'est les électeurs qui leur donnaient tort, puisque chaque fois, la majorité de droite perdait chaque fois des sièges. La majorité catholique disparaissait. Et ce qui est important, c'est que nous sommes dans une société divisée de croyances et de convictions. Et c'est ça la laïcité, c'est prendre acte que nous sommes dans une société divisée de croyances et de convictions, et que cette situation, on accepte qu'elle soit légitime. Et par conséquent, il faut apprendre à vivre dans une société, je le répète, divisée de croyances et de convictions.
Alors, je vais vous faire réagir, dans le prolongement de cela, sur cette notion de laïcité positive. Vous savez que depuis que le président Sarkozy était au pouvoir, il parle beaucoup de laïcité positive. Et donc ma question, c'est, est-ce que vous pensez qu'effectivement il y a des améliorations dans la laïcité d'aujourd'hui telle qu'elle est pratiquée qui sont indispensables? Et si oui, quel changement vous semble être nécessaire et ou indispensable?
Alors, si vous voulez, il y a deux points dans votre question. D'abord, l'expression laïcité positive. Moi, j'aurais envie de faire un cours de grammaire au président Sarkozy, qu'il me le pardonne. Parce que quand on dit laïcité positive, il pense laïcité négative. Mais en bon français, laïcité positive peut s'entendre d'une manière tout autre. Et là, il suffit de prendre l'exemple chez les théologiens. Quand les théologiens parlent de théologie positive, ça n'est pas pour l'opposer à théologie négative. C'est pour l'opposer à théologie systématique. La théologie négative, c'est tout à fait autre chose. Et la théologie positive, c'est la théologie qui se fonde sur les faits, sur les documents. Et par conséquent, personnellement, moi, je pense que la laïcité positive, ce n'est pas celle qui s'oppose à une laïcité négative. C'est une laïcité qui se fonde sur les textes.
Pas comme ça qu'il l'entend, lui.
Ben non, mais je sais bien. Voilà. C'est pour ça que je suis prêt à entendre théologie positive. Commençons par regarder les textes.
Voilà, enfin, lui, dans son esprit, c'est qu'effectivement, il y a eu... C'est la violence dont nous parlions, c'est l'état d'esprit qui a présidé dans la tête de certains. Il y avait une interprétation négative de la théologie. Est-ce que vous croyez que cette vision-là, même si au-delà de ce terme positif que vous avez indiqué. Est-ce que vous croyez qu'il y a des choses dans la laïcité, dans le régime de laïcité, pour dire ça simplement, pratiquées aujourd'hui, alors, des choses qui peuvent être ou qui doivent être améliorées?
Moi, je pense que le défaut de la perspective laïcité positive telle qu'il nous est présentée et laïcité donc négative, c'est qu'elle prend acte d'une situation conflictuelle qui perdure. Et personnellement, moi, je pense que cette situation conflictuelle, elle est légalement, positivement déjà dépassée. Hein, depuis 1905, puisque je veux dire, on s'est embarqué de manière très positive. Bon, alors actuellement, il reste un contentieux entre les laïcs, entre guillemets, et les catholiques, en gros, ou même les protestants, un contentieux que vous me permettrez de qualifier de mineur par rapport aux enjeux du siècle écoulé. Alors l'un des enjeux, le dernier enjeu, c'est le problème de la collation des grades, qui est un monopole de l'État et par conséquent, ça exclut les grades des facultés catholiques. Mmh. Il y a un arrangement qui vient d'être fait dans des conditions qui posent quelques problèmes, si vous voulez. Bon, mais voilà l'exemple du contentieux. Tout contentieux est important pour celui qui le présente. Mais replacé dans un contexte, on peut dire que c'est mineur.
Est-ce qu'on pourrait imaginer de vous faire un petit reproche de littéralisme ? De considérer effectivement que vous voyez la laïcité d'un point de vue juridique, d'un point de vue des textes, mais que l'état d'esprit, que ce qu'il y a dans la tête des individus, parfois, vous semblez un tout petit peu les mettre de côté. Je pense en particulier, et excusez-moi d'y faire référence comme ça, mais au dernier René Raymond, enfin, c'est celui qui, à la fin de sa vie, effectivement, a considéré qu'il y avait effectivement chez les uns, chez les autres, un nouvel anti-christianisme, une culture du mépris à l'égard du catholicisme, etc., etc.
C'est rien par rapport à ce qu'il y avait au XVIIIe siècle, c'est rien par rapport à ce qu'il y avait au XIXe siècle.
Oui.
Dans ma bibliographie, j'ai 200 titres sur la fin de la religion, la fin du christianisme, la mort de Dieu.
Mais est-ce que vous croyez... Non, qu'il n'y a rien de neuf sous le soleil, peut-être. Oui. Mais est-ce que vous ne considérez pas que cette laïcité positive, telle que l'entend le président Sarkozy, est une laïcité qui s'oppose un tout petit peu à cette, et sauf si vous considérez qu'il n'y a pas de culture du mépris, qu'il n'y a pas d'anti-christianisme pratiqué par un certain nombre de philosophes, de médias, etc. Mais si c'est le cas, est-ce que vous ne croyez pas que cette laïcité positive-là vient s'opposer justement non pas à des lois ou à des pratiques, mais surtout à un état d'esprit qui peut-être tente à considérer que le christianisme est terminé, qu'il faut au contraire tout faire pour le pourchasser là où il est. Je pense en particulier à Michel Onfray.
Écoutez, vous avez tous les droits de me faire toutes les critiques que vous voulez. Personnellement, moi, je ne plaide pas pour le littéralisme, je plaide simplement pour qu'on ne fasse pas l'économie des textes. Et par conséquent, qu'on ne fasse pas des politiques fondées sur l'inculture et sur l'ignorance. Ceci dit, une fois qu'on a fait retour au texte, à ce moment-là, on n'est pas prisonnier des textes. Moi, c'est ce que je dis toujours aux juristes. Il ne faut pas s'enfermer dans un corpus textuel. Hein. Mais encore faut-il disposer de ce corpus et l'établir. Sinon, on passe à côté des réalités, en particulier l'administration, qui, elle, fonctionne sur des textes. Alors, on a d'une part la réalité administrative qui fonctionne au quotidien, et puis d'autre part des jeux médiatiques ou des jeux rhétoriques au Parlement ou dans la presse, si vous voulez, bon, je dirais, et qui finalement n'avancent rien.
Donc vous considérez que cette idée d'améliorer, de positiver la laïcité, c'est un faux débat?
Ben écoutez, je pense qu'on peut positiver la laïcité en économisant ce débat.
D'accord.
Et j'en prendrai un seul exemple. En 2002, c'est quand Lionel Jospin, ou 2002 ou 2003, quand Lionel Jospin a institué une rencontre annuelle avec la présidence de la Conférence des évêques de France. Ouais, bon, il a fait ça sans se soucier du débat que vous venez de soulever.
Il y a les effets de manche,
selon
ce que vous dites, et puis d'autre part, les choses sérieuses enfin, qui se
Exactement,
passent par ailleurs
oui.
et qui effectivement ne sont pas du même ordre. Enfin, c'est pour ça que je me permettais m'abriter sous la protection de René Raymond, qui effectivement, comme vous le savez, à la fin de sa vie, a fait quelques textes d'une part et quelques livres qui l'ont fait sortir un tout petit peu de sa réserve.
Oui, mais l'antichristianisme, si vous voulez, moi, à qui je souhaite longue vie, je dirais, fait partie de la liberté publique de conscience reconnue à tous, si vous voulez. Mais comment dire, mais l'antichristianisme ne figure pas dans les principes républicains qui nous gouvernent, ni même dans la définition de la laïcité qui nous gouverne.
Oui, sauf que cet antichristianisme dont vous parlez là, il était peut-être effectivement dans les têtes quand vous citez.
Oui, mais c'est un fait de société.
Voilà. Quand vous citez dans l'ère post-chrétienne cette idée de Jules Ferry, mon but, organiser l'humanité sans Dieu, c'est qu'on est bien effectivement dans deux niveaux peut-être de laïcité. Mais celui des effets de manche peut-être.
On est dans le débat démocratique.
Absolument.
Dans le débat démocratique, ceci dit, il faut quand même regarder la réalité telle que nous vivons. Et je dirais que Jules Ferry veut organiser la société sans Dieu, mais la société n'a pas besoin de Jules Ferry pour s'organiser sans Dieu. C'est ça le vrai problème. C'est que la société n'attend rien de Jules Ferry. Elle lui demande ni sa permission ni son concours. Et elle s'organise effectivement sans Dieu. Allez demander ce qui était autrefois le CNPF, allez demander à Laurence Parisot quelle place Dieu tient dans les délibérations de son association patronale. Allez demander à l'UMP quelle place Dieu tient dans le fonctionnement du parti.
Donc, M. Poula, merci beaucoup de nous avoir consacré votre temps, d'avoir essayé de clarifier ce sujet de laïcité qui est toujours un sujet compliqué. Et vous avez toujours, dans ces débats-là, essayé de mettre de l'intelligence, de la clarté, de la précision, quand d'autres essayent toujours de rallumer les vieilles querelles ou de mettre de la passion sur ce sujet de la laïcité qui est toujours présent dans nos débats. Et donc, je pense que tous nos auditeurs pourront faire leur miel de tous vos propos pour essayer de clarifier tous ces débats qui sont toujours des débats compliqués. Et je ne peux que renvoyer les auditeurs à vos différents ouvrages qui, eux aussi, essayent point par point, comme votre grand ouvrage sur notre laïcité publique, de mettre toujours, sur chacune de ces questions-là, de l'intelligence et de la clarté.